Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Il est 7h40.
Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Le chef de l'État a appelé hier à ne céder à aucun esprit de terreur. Mais les Français ont peur, Gérald Darmanin. Est-ce qu'on doit apprendre à vivre avec la menace terroriste au quotidien?
Mais nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre face à un ennemi qui est à la fois un ennemi intérieur et un ennemi extérieur. Et l'idéologie, puisque nous ne sommes pas en guerre contre une religion, nous sommes en guerre contre une idéologie, l'idéologie islamiste. C'est une idéologie qui veut imposer ses codes culturels, sa façon de vivre, sa façon effectivement de gérer les émotions par la terreur. Ils l'ont fait dans plusieurs pays. Plusieurs pays ont à subir cette terreur. Et quand on est en guerre, on doit comprendre, malheureusement, qu'il y a eu et qu'il y aura d'autres faits comme ces attentats absolument ignobles. Je l'ai dit dès ma prise de fonction au ministère de l'Intérieur. Je l'ai redit plusieurs fois depuis que j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Et les Français le savent, on leur dit plusieurs fois, mais ils doivent s'en convaincre que nous sommes en guerre contre cette idéologie islamiste.
Ça veut dire que la France est aujourd'hui la première cible du terrorisme islamiste dans le monde ?
Je ne sais pas si la France est la première cible de l'islamisme ou du terrorisme dans le monde. Elle est une grande cible, en effet. Mais je constate qu'il y a beaucoup de pays qui ont été touchés, qui sont touchés. Vous savez, à commencer par certains pays arabes, on oublie maintenant, mais des démocrates, des dirigeants de pays arabes qui ont essayé de se battre longtemps contre des gouvernements islamistes, contre une imposition d'un code culturel, d'une idéologie, il y en a eu plein. Il y a encore des gens qui résistent d'ailleurs dans ces pays à vouloir combattre cette idéologie. Et alors là, la France, parce qu'elle est le pays de la liberté, sans doute, parce qu'elle est le pays qui a une laïcité tout à fait exceptionnelle, puisque c'est notre valeur, que les autres ont parfois du mal à comprendre, y compris les pays anglo-saxons d'ailleurs, parce qu'il y a les caricatures de Charlie, parce qu'il y a les procès, parce que nous imposons et nous ne cédons rien, comme dit le président de la République, est particulièrement visé en ce moment.
Ça veut dire que aussi la menace n'a jamais été aussi élevée, vous le diriez comme ça ce matin, et qu'il faut s'attendre à d'autres attentats dans les prochains jours, les prochains mois.
La menace, elle est très élevée. Vous savez, 3 attentats de suite, sous 15 jours, 3 semaines à chaque fois, entre les anciens locaux de Charlie et cet affreux attentat niçois, ça n'est pas arrivé depuis 2015. Ça fait 5 ans. Alors on voit bien que la menace, elle change. Elle change parce que l'État islamique ne semble plus, mais je mets du conditionnel évidemment, capable de projeter des attentats comme il y a eu précédemment. C'est le cas, bien sûr, tout le monde s'en souvient de Charlie Hebdo, du Bataclan. Mais il y a une menace très endogène, c'est-à-dire de gens qui sont capables de prendre des couteaux, une voiture, et semer la terreur dans les rues de Paris, dans les rues de Nice, dans les rues de France. Et cette menace, elle est effectivement très présente et elle peut arriver, bien sûr.
On va y venir dans le détail. Mais tout d'abord, le Premier ministre a annoncé hier que la sécurité était portée au niveau urgence attentat en France. On pensait naïvement, Gérald Darmanin, que nous l'étions déjà en urgence attentat, notamment après l'assassinat de Samuel Paty.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Que d'être particulièrement vigilant. Ça veut dire que les services de renseignement ont, depuis plusieurs jours, la presse d'ailleurs a fait écho d'un télégramme que j'ai envoyé au préfet dès dimanche, évoquant un certain nombre de menaces. Nous sommes particulièrement visés en ce moment du fait notamment des appels à la haine extrêmement forts de pays étrangers ou de dirigeants de pays étrangers.
Je pense à la Turquie.
Je pense évidemment aux propos absolument scandaleux du président Erdogan et de certains de ses ministres. J'ai lu avec effarement les propos d'un ancien Premier ministre malaisien.
Pour qui les musulmans, je le cite, ont le droit de tuer les Français. Il en a fait 13 comme ça. Il a fallu beaucoup de temps à Twitter pour le retirer des réseaux sociaux.
Vous savez, ce qui gêne sans doute, c'est la liberté qu'offre la France à tous ceux qui veulent être protégés par notre pays. Et nous devons nous enorgueillir d'accueillir sur notre sol, notamment tous ceux qui sont combattus par ces islamistes. Marlène Schiappa a rendu visite, voilà, quelques jours à ses femmes yézidis. Et nous sommes très heureux et très fiers de les accueillir sur le territoire national. Que nous puissions accueillir des chrétiens, des musulmans persécutés par ces régimes dictatoriaux, parfois par l'idéologie islamiste souvent, et notre laïcité, qui consiste à pouvoir accepter sur notre sol toutes les opinions, tous les cultes, à la condition bien sûr expresse qu'ils respectent la loi de la République, est souvent attaquée par ces idéologues. Et donc oui, nous avons malheureusement aujourd'hui de plus en plus de gens qui considèrent que la France est à abattre, parce que la France, c'est le pays de la liberté.
Mais alors, vous dites on s'enorgueillit, à raison, d'accueillir des gens qui sont opprimés. Mais faut-il pouvoir permettre à un Tunisien de 21 ans d'arriver via l'île de Lampedusa en Italie, donc l'auteur présumé de l'attentat de Nice, d'hier, il était totalement hors radar. Est-ce qu'il faut fermer les frontières de la France? Est-ce que c'est la solution pour éviter que des gens comme ceux-ci arrivent sur notre territoire?
Bon, d'abord, dans le cas du terroriste, manifestement, le procureur en dira un peu plus. Mais ce que j'en sais, c'est qu'il est depuis quelques heures, quelques jours, sur notre territoire, qu'il n'a pas fait de demande, à ma connaissance, de carte de réfugié ou de carte de résident, qu'il est arrivé effectivement un mois à peine sur le sol européen, et que en Italie, où il aurait dû être exclu, puisqu'il a eu un décret de reconduite à la frontière italienne, il ne l'a pas été, pour des raisons qu'on peut éventuellement comprendre. Il y a le Covid, il n'y a peut-être pas assez de place dans les centres de rétention italiens, on verra bien ce qui s'est passé.
On doit le comprendre, ça. Est-ce qu'on doit l'accepter?
Quand vous avez notamment... Non, on ne va pas l'accepter, mais on peut comprendre que lorsqu'il y a le Covid, par exemple, et qu'on a la fermeture des frontières aériennes, c'est difficile de renvoyer chez eux les gens. Ça, chacun peut comprendre, et je pense que tout le monde peut comprendre ce béaba, et j'en veux pas au gouvernement italien, puisque c'est une question d'un quelqu'un qui a demandé et qui a été repéré sur le territoire italien. Et il n'a pas fait de demande de carte de réfugié ou de carte de résident en France. Il est venu commettre un attentat. On verra dans quelles conditions. Mais si bien sûr on doit lutter contre les étrangers qui sont radicalisés, ce n'est pas le cas de ce terroriste qui n'était connu dans aucun des fichiers français ni européen, à l'exception de ces Eurodac, c'est-à-dire du fichier des gens qui arrivent sur le territoire européen parce qu'ils sont immigrés clandestins. Nous devons bien comprendre que nous devons être absolument très durs, effectivement, contre les étrangers qui sont en situation d'être radicalisés. Et c'est pour ça que nous les expulsons. Depuis un mois, j'ai fait procéder à 14 expulsions, malgré d'ailleurs la fermeture des espaces aériens. Mais je voudrais faire remarquer que dans les 30 derniers terroristes qui ont assassiné, torturé, tué sur notre sol, 22 sont français. Et que le profil des terroristes islamistes est très divers. Et que tous ceux qui ont une baguette magique avec, quand ils étaient au pouvoir, aucune prise manifestement de responsabilité face à l'islamisme, aujourd'hui nous disent, en fermant les frontières, en virant tous les étrangers, vous aurez résolu le problème du terrorisme, mentent aux Français.
Mais tout de même, Gérald Darmanin, il était hors radar. C'est là où on se dit qu'il y a une forme d'impuissance quand même, de toute façon, qu'on ne peut pas avoir un risque zéro.
Ah mais bien sûr qu'il n'y a pas de...
Et que comment on fait contre des gens comme ça qui sont totalement hors radar?
Mais
c'est ça le problème. On a une forme, si vous voulez, d'impuissance qu'on se dit, il y a eu 25 lois antiterroristes, c'est Olivier Bost qui le rappelait tout à l'heure, depuis 1986. Vous êtes en train de préparer une nouvelle loi sur le séparatisme. Est-ce que cette loi, si elle existait aujourd'hui, aurait empêché cet acte? Non.
Non mais d'abord, il n'y a pas effectivement zéro risque. Il y a des risques. Il y a des attentats qui peuvent être commis sur le sol national. Parce que nous sommes en guerre. On ne peut pas dire on est en guerre et dire qu'il n'y a pas de risque. Voilà, ça c'est la vérité que l'on doit aux Français. Deuxièmement, moi je ne réclame pas une loi antiterroriste supplémentaire. Le combat que nous devons mener, c'est un combat culturel. Le même jour, vous savez, de ces attentats, il y a parfois de belles tribunes de beaux esprits qui expliquent qu'on en fait trop. J'ai été accusé quasi de fascisme parce que je demandais au juge des libertés l'autorisation de perquisitionner chez ce que nous pensons être des ennemis de la République. On cloue au pilori ce genre d'action, on insulte les policiers, on explique qu'on bafoue l'état de droit. Il y a même des parlementaires, alors plutôt à gauche de l'hémicycle, qui ont dénoncé cela, m'expliquant d'ailleurs que je m'asseyais sur la Constitution, alors que je ne faisais qu'appliquer les lois qu'avaient votées les parlementaires. Donc ce que nous devons d'abord gagner, c'est un combat culturel. Lorsque j'ai proposé la dissolution du groupement de fait Cheikh Yassine, puis du Baraka City, dans 15 jours du CCIF. Certains m'ont dit, mais il touche aux libertés, c'est incroyable, il trouve des boucs émissaires. C'est un combat idéologique que
mais
nous devons mener.
Mais est-ce que vous en avez les moyens? Est-ce que vous êtes empêché peut-être par le cadre légal? Vous le dites, certains vous disent aujourd'hui, il faut des lois d'exception. Et pas les plus radicaux. Regardez, Christian Estrosi vous dit, il faut qu'on sorte des lois de la paix pour anéantir l'islamo-fascisme. fascisme. Vous avez des djihadistes qui vont sortir de prison, 150 détenus qui sont condamnés. D'ici 2023, ils vont sortir 45 pour cette seule année 2020. Vous aviez mis en œuvre, vous vouliez mettre en œuvre une loi pour permettre de les encadrer. Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous êtes entravé ?
La différence, c'est que je suis aux responsabilités sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République et je ne peux pas raconter n'importe quoi aux Français. La grandeur d'une démocratie, sa force quand on y croit, quand on est démocrate, quand on est républicain, c'est de pouvoir dire aux Français qu'avec un cadre légal qui respecte l'état de droit, on peut battre les plus grandes barbaries. L'islamisme est une forme de fascisme du XXIe siècle. C'est un extrémisme que nous devons combattre, comme d'autres avant nous. Au XXe siècle, ont combattu des fascismes, ont combattu des idéologies. Et ils l'ont fait sans toucher à l'état de droit. Et je constate que le général de Gaulle, lui-même, pendant la guerre, la première chose qu'il fait, alors qu'il mène une guerre très dure contre le fascisme, il demande à René Cassin d'imaginer de nouveaux principes constitutionnels pour respecter l'état de droit. Donc la grandeur de la France, ce sera de battre cette idéologie avec l'état de droit.
Et sans changer la Constitution.
Moi, je ne crois pas que ce soit nécessaire. Voilà, je ne le crois pas. Et changer notre constitution, c'est donner raison, me semble-t-il, aux terroristes islamistes. Parce qu'ils combattent justement ce que nous représentons, c'est-à-dire un état de droit. Mais un état de droit, ça ne veut pas dire un état mou. Ça veut dire un état qui accepte l'idée qu'il doit prendre les mesures, toutes les mesures. Et le général de Gaulle, dans sa constitution, nous a donné ces mesures pour pouvoir combattre ceux qui sont nos ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Mais c'est un combat culturel. Vous savez.
Donc ça veut dire que ça va prendre des années.
Non, mais monsieur Sporto, je vais vous donner un chiffre.
Ça va prendre des années, bien sûr que une génération.
Bien sûr que ça va prendre des années. Il y a eu 1485 signalements à Pharos depuis la mort de ce pauvre professeur, monsieur Platy.
La plateforme de signalement.
Voilà. Pharos, je le dis à tous les auditeurs, parce que c'est un combat de société, c'est un combat culturel. Tous les citoyens peuvent signaler à la police, ça s'appelle Pharos, des tweets, des messages sur Internet qui sont des messages d'apologie du terrorisme. Il y a eu des dizaines d'interpellations suite à ces signalements. Qu'est-ce qu'on constate ? Que la majorité de ces signalements, parce que ces gens sont interpellés, on voit qui ils sont, ce sont des jeunes Français, qui ont entre 12 et 14 ans. Vous voyez ce que ça veut dire quand même, quand vous avez des dizaines de jeunes, qui de manière plus ou moins anonyme, parfois pas anonyme du tout, mettent sur les réseaux sociaux que des choses absolument ignobles qui concernent le professeur M. Paty, en disant grosso modo que c'est bien fait ce qui lui arrive. Vous voyez bien que le sujet n'est pas qu'un sujet d'étrangers qui viennent d'arriver sur notre sol et qui seraient radicalisés, pour lequel les services n'auraient pas les moyens.
Et par exemple,
non mais attendez, c'est un combat très important.
C'est
ça.
Important parce
ça veut dire que le mal est très profond.
Il est très profond. Regardez, juste une question, parce qu'il y a des propositions qui fleurissent pour empêcher l'islam radical de se développer dès le plus jeune âge. Et votre député de la majorité, Aurore Berger, dit qu'il faut interdire le voile ou le hijab pour les petites filles, parce que c'est aussi le signe d'une radicalisation inacceptable. Qu'est-ce que vous dites à cela, par exemple ?
D'abord, il faut commencer par le commencement. Tout le monde doit aller à l'école. C'est le principe de la loi séparatisme que nous proposons au mois de décembre prochain. On a vu beaucoup de beaux esprits, là encore, dire « mais pourquoi ?»« Mais laissons la liberté à chacun d'eux. » Le président de la République a pris une mesure courageuse qui est conforme aux grandes lois laïques depuis Jules Ferry. Tout le monde doit aller à l'école de la République. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Deuxièmement, on doit être très dur contre toute association qui trahisse les valeurs de la République, qui parfois d'ailleurs touche des subventions publiques. La loi séparatisme que je propose au mois de décembre, sous l'autorité du président, c'est plus de subventions pour les ennemis de la République et c'est dissolution avec des critères renforcés pour ceux qui trahissent les valeurs de la République.
Sur le voile pour les petites filles.
Mais voyez cet exemple, par exemple. Pourquoi des petites filles de 3 ans mettent des hijabs ? Pas parce qu'elles ne sont pas scolarisées à l'école de la République. Là, le voile y est interdit. Et parce que deuxièmement, nous avons constaté, moi j'ai fait fermer une école il y a 15 jours.
Le mettre en dehors de l'école
à Bobigny.
Aussi.
Non mais déjà, attendez. Commençons par le commencement. Tout le monde doit aller à l'école. On peut faire des mesures cosmétiques qui vont nous polémiquer pendant des semaines et des semaines. C'est ce que les politiques français ont fait depuis 15 ans. Un coup de burkini. Le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est l'école. Élever les citoyens qui sont des citoyens capables à 18 ans d'être éclairés et de prendre eux-mêmes leurs propres décisions. Quand vous mettez des petites filles de 3 ans dans des écoles de fées, c'est-à-dire des écoles clandestines, avec des hijabs, sans petites chaises, sans fenêtres, sans cours de récréation, avec dans des écoles clandestines que je fais fermer en ce moment, vous savez, des animaux qui sont sur les murs, comme quand on découvre ce que c'est qu'une vache, ce que c'est qu'une poule, où on cache l'image. La tête de la vache ou de la poule. Voilà ce parfois dans lesquels les petites filles de la République sont élevées. Nous devons être absolument intraitables. Par exemple, cette disposition, il nous en manque une, prévoit que quelqu'un qui ouvre une école clandestine, on ne peut pas le mettre en garde à vue. Il ne peut pas être puni de peine d'emprisonnement.
Ça sera dans la loi.
L'école, c'est l'alpha et l'oméga. Si votre combat il est culturel, M. Sportouche, il ne peut pas être que de réponse,
une loi ne suffit pas.
Que de réponse de sécurité. Chacun doit comprendre que nous sommes en guerre contre une idéologie. Une idéologie, elle se combat bien sûr par des armes, par des écoutes téléphoniques, par des interceptions, par des gens qui sont virés du territoire national lorsqu'ils ne sont pas français, mais il se combat culturellement. Et ça passe par l'école. Ça passe aussi par les services publics, ça passe dans la façon dont nous gérons désormais les valeurs de la République en les imposant.
Et pendant ce temps, vous devez assurer la protection des Français. Est-ce que vous avez les moyens de protéger toutes les églises, tous les cimetières ce week-end, voire les écoles lundi matin? Certains parents sont inquiets.
Le président de la République a demandé que la force sentinelle, c'est-à-dire les militaires, soit augmentée, notamment ce week-end pour les fêtes de la Toussaint. Les catholiques ont été profondément touchés, et avec eux toute la France, par cet ignoble attentat. Il y aura 4000 militaires de plus à partir de ce week-end, donc pour les fêtes de la Toussaint, qui protégeront les cimetières, bien sûr, mais aussi les églises, et de manière générale, les lieux de culte. Vous savez, il y a des mosquées aujourd'hui qui sont effectivement aussi attaquées, parce que leurs dirigeants soutiennent fidèlement et avec beaucoup de loyauté la République, et nous pensons à eux. Je pense aux grands dirigeants musulmans français qui protègent la République et qui prennent la parole contre cette terreur désormais généralisée de la part de ceux qui veulent toucher la France. Et nous avons 100 000 policiers et gendarmes qui sont à la disposition des Français pour pouvoir les protéger, et notamment pour faire protéger la rentrée scolaire.
Et hier soir, pourtant, Gérald Darmanin, dans les rues de Dijon, on a vu des manifestants brandissant des drapeaux turcs et criant à l'Akbar. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent. La préfecture dit c'est une simple manifestation. C'était en plein couvre-feu, et ça succède à une autre manifestation près de Lyon. C'était la veille à Décines, contre des Arméniens. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça m'inspire beaucoup de réponses. D'abord, nous sommes d'ailleurs en train d'exploiter ces vidéos. Avant d'arriver ce matin, j'avais des échanges justement avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir faire des interpellations s'il le faut. Vous savez que la liberté de manifestation, elle est encadrée par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Même en période de Covid, on peut manifester, mais on n'a pas le droit, de brandir des slogans contre la République. Et donc des dispositions seront prises et ça ne continuera pas.
Et le confinement est en cours, il commence aujourd'hui. Est-ce que vous aurez très rapidement un peu de tolérance pour les Français d'ici dimanche avant des sanctions?
Tout à fait. D'abord, les chrétiens pourront fêter la Toussaint. Donc les cultes pourront organiser des cérémonies cultuelles pour la fête de la Toussaint. Et les Français qui reviennent de leur congé, légitimement, ne seront pas sanctionnés s'ils reviennent de leur congé.
Merci Gérald Darmanin. Bonne journée
beaucoup.
À vous.
L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Et dans un instant.